Bonjour, vous écoutez Résonance, l'émission d'information locale d'Univers 99.9. Pour cette émission, nous allons à Lanvalet rencontrer François Lang et Jean-François Châtelet de la Maison de la Rance. Ils vont nous parler de ce cours d'eau qu'est la Rance, et notamment dans sa dimension historique, des premières traces d'habitation et d'activité humaine que les historiens et les archéologues ont pu découvrir, des sites remarquables que l'on peut nous-mêmes aller visiter et découvrir, et des activités humaines de ces deux derniers siècles jusqu'à aujourd'hui. Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Je suis ici à Lanvalet, à la Maison de la Rance, le long du port. La Maison de la Rance qui est un lieu de ressources, de valorisation et de médiation autour de la Rance, de son environnement proche. Je suis avec François Lang, qui est responsable de la Maison Nature, chargé de mission Natura 2000, et Jean-François Châtelet, animateur nature pour les maisons nature de la communauté de la Rance. Alors là, je voulais discuter entre autres de la Rance et dans sa dimension historique, et notamment les activités humaines qu'elle a accueillies, qu'elle accueille, mais qu'elle a surtout accueillies à travers l'histoire. Et ma première question serait celle-ci. Est-ce que, en tant que rivière à embouchure, historiquement, c'est un lieu sans doute de nombreuses activités, mais pour commencer, jusqu'où peuvent remonter les historiens et les archéologues pour retrouver des lieux habités, des traces d'activités humaines?
Alors, si on se promène sur les bords de la Rance, les traces, je dirais, de la présence humaine, elles vont remonter au niveau du néolithique, où effectivement, sur des secteurs comme Saint-Suliac, par exemple, on a le menhir dit de la dent Gargantua. On va avoir sur la commune de Saint-Sanson également un menhir gravé, qui est quand même assez intéressant. Et puis après, on va avoir des traces avec la présence d'éperons barrés, donc de sites où les gens se protégeaient, donc sur le secteur de Cancaval à Pleurtuy, sur...
Le site de la Vicomté, l'éperons barrés de la Vicomté sur Anse. Hein. Et puis... On peut dire aussi qu'il y a toute l'époque gallo-romaine avec le secteur de Tadin, avec des vestiges d'anciens temples gallo-romains aussi qui ont été repérés. Hein, donc, vestiges, c'est un bien grand mot, hein, parce que des empreintes, on va dire. Hein. Ah, donc voilà.
Sur un plan gallo-romain, alors déjà, il y a toute l'histoire des guets qui existaient sur le secteur de Rigourden, donc entre Plouer et Saint-Suliac, le guet de Tadin, qui était en fait les voies de passage entre la ville de Corseule, la cité des Coriosolites, et la cité d'Alette. Et puis on ne va pas oublier quand même, parce que c'est assez récent et ça a été, je dirais, un immense succès lors des dernières journées du patrimoine, c'est la découverte des plus beaux thermes gallo-romains sur la commune de Langrolet, avec actuellement une volonté de préserver ces bâtiments et ces vestiges qui sont dans un état de conservation exceptionnel.
En tant que lieu, en tant que rivière et embouchure, j'imagine que c'est un lieu très, très singulier et privilégié en termes d'activité humaine.
Oui, de toute façon, la voie d'eau était l'axe majeur pour le transport des marchandises, également aussi pour des contrôles, des flux de population éventuellement à pied, des moyens de se protéger. Donc on ne peut pas omettre, je dirais, de la présence du site dit du camp viking, qui est un retranchement situé au sud de la pointe de Garot sur la commune de Saint-Suliac, dont on sait aujourd'hui que ce n'est pas un camp viking, mais dont on ne sait toujours pas ce que c'est réellement. Voilà, c'est ce que certains appellent la structure énigmatique des bords de Rance. Pour revenir à la voie d'eau navigable, effectivement, il y a eu toute une activité 17e, 18e de transport de marchandises, essentiellement entre la ville de Dinan, ou je dirais le pays dinanais, pour alimenter la ville de Saint-Malo, qui à l'époque était uniquement la ville close, hein, donc une île, avec des bateaux dont certains sont spécifiques à l'estuaire de la Rance, le fameux chaland de Rance. Donc on avait donc des gabarres, des chalands, qui chargeaient leurs marchandises, pommes, cidre, fagots de bois, etc. Et tout ce dont la ville de Saint-Malo pouvait avoir besoin, et qui descendaient la Rance à marée descendante, et qui remontait ensuite sur les secteurs de Pleudihen, Dinan pour recharger, en profitant du flot pour naviguer essentiellement avec les courants. Et à ce titre, sur le secteur de Livet, près de l'écluse du Châtelier, nous avons encore la carcasse du dernier chaland de Rance qui est navigué, qui s'appelle le Louis. Voilà. Alors après, on a eu des bateaux plus spécifiques à l'estuaire, donc sur Saint-Suliac, entre autres, avec la Chip, qui était un navire de pêche, qui était le navire de pêche des lançonniers, donc avec la pêche au lançon. Et un exemplaire a été reconstruit dans le cadre du concours lancé par le Chasse-Marée en 1996 ou 98.
Dans l'époque moderne, pour faire simple, quelles ont été les grandes activités, on va dire, à partir du 19e siècle? Est-ce que vous pourriez nous retracer quelques grands moments?
Alors les grands moments, bon, il y en a un, mais il existait bien avant. C'est en fait, si on parle du 19e, début du 20e, ben, en fait, c'est la fin des moulins à marée. Et la Rance en accueillait une bonne douzaine, entre 12 et 14. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur le nombre exact.
On dit quinzaine carrément.
Donc ces moulins à marée, les ancêtres de l'usine marémotrice actuelle, tout en précisant que le dernier arrêtait de fonctionner sur les bords de Rance en 1980. Hein, bon, il s'était affranchi de l'énergie marémotrice à cette époque-là, il fonctionnait à l'électricité, mais le dernier moulin à marée s'est arrêté en 1980. Donc ça, c'était quand même une activité majeure, avec aujourd'hui un témoignage sur les bords de Rance qui est encore bien présent, dans des degrés de conservation très différents, mais qui atteste du fait que la Rance a été un des gros sites d'accueil de ces moulins à marée. Ensuite, 19e, bah, ça a été là aussi une grosse activité de chantier naval pour bon, des bateaux éventuellement à vocation diverse, mais essentiellement Terre-Neuve, avec la construction des trois mâts et des goélettes qui partaient sur les bancs, avec dans certains secteurs une activité dont on n'a pas aujourd'hui l'idée. Si on prend la retenue du moulin de Montmarin, par exemple, sur la commune de Pleurtuis, historiquement c'était une darse qui était la darse d'un chantier naval sur laquelle, à la grande époque, un millier de personnes venaient travailler chaque jour. Donc c'était vraiment une très très grosse activité qui a périclité avec l'apparition des navires métalliques. Et aujourd'hui, avec la plaisance, on a de nouveau une activité de chantier naval, mais plus effectivement orientée sur les navires, les bateaux de plaisance, qui s'est redéveloppée en Rance.
Outre l'industrie navale, est-ce qu'il y avait d'autres types d'industries liées autour de la Rance? Quels autres types d'activités est-ce qu'on pouvait retrouver?
Alors on a eu des activités bon, qui ont démarré puis qui se sont arrêtées, bon, entre autres les salines qui étaient sur le secteur de Saint-Suliac essentiellement, avec un sel de pas très bonne qualité, donc une activité qui s'est arrêtée quand les salins du Midi ont apporté leurs produits qui étaient de meilleure qualité. On a eu des activités de pêche, de pêche artisanale, hein, avec, je dirais, essentiellement l'espèce un peu emblématique des bords de Rance, c'est le lançon. Donc ces activités se sont arrêtées. Aujourd'hui, on a de nouveau des activités de pêche professionnelle, mais c'est une évolution, je dirais, enfin, somme toute logique, et qu'on a vu sur toutes les côtes, où la petite pêche vraiment artisanale avec une personne sur le bateau s'est arrêtée. Et aujourd'hui, on a une activité qui a démarré au début des années 2000, qui à l'époque était assez originale. C'est une activité de pêche en plongée-bouteille, donc pêche professionnelle en plongée-bouteille, sur essentiellement deux ressources, que sont la coquille Saint-Jacques et les huîtres plates. Voilà, donc une pêche douce, sélective, peu gourmande en carburant. Donc une pêche qui est, je dirais, très dans l'air du temps. Voilà, donc autrement, les autres activités, y avait du ramassage, le ramassage du goémon, avec des structures en piquet, donc des piquets qui étaient plantés sur la grève, avec un entrelac de branchages de façon à faire des fascines. Et puis, c'était l'activité souvent des hommes d'aller ramasser le goémon à marée basse. Et puis ensuite, c'était les femmes qui allaient le faire sécher en haut de grève ou dans le jardin, pour ensuite une exportation comme un amendement en grès auprès du monde agricole.
Alors vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait des moulins à marée. La Rance est aussi reconnue pour son barrage et l'usine marémotrice. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en fait, d'utiliser sur la Rance la force des marées comme une énergie.
Non.
Comme une source d'énergie.
Non, si on reste dans notre secteur géographique, dans le Havre de Rothéneuf, sur la commune de Saint-Malo-Saint-Coulon, on a les vestiges d'un des trois premiers moulins à marée construits en France et qui date de la fin du XIIe siècle. Voilà. Et qui, malheureusement, est resté pratiquement dans son état d'origine jusque dans les années 20. Et aujourd'hui, il ne reste rien. Qui était un moulin cage, le moulin un peu traditionnel chez nous, soubassement en pierre et un appentis en bois au-dessus. Et effectivement, après, l'ensemble des secteurs, je dirais, qui géographiquement se prêtaient à l'implantation de moulins ont été effectivement aménagés. Donc, d'où la présence d'une quinzaine de moulins tout le long de la Rance, quelques moulins sur le littoral de la Côte d'Émeraude, mais le gros spot était en Rance. Et ces moulins étaient tous des moulins à farine. Et on continuait donc à fonctionner pour le dernier jusque dans les années 80. Après avoir subi une mutation, on est passé du moulin artisanal à la véritable minoterie. Cette minoterie s'est affranchie progressivement des contraintes de l'énergie des marées pour fonctionner tout d'abord avec l'aide d'un moteur diesel avant d'être complètement électrifié et pouvoir travailler sans dépendre de la marée.
Aujourd'hui, quelles sont les activités qui se développent autour de la Rance ?
Alors, les activités qui se développent, on va avoir des activités primaires qui sont des activités de pêche, des activités de conchyliculture, donc essentiellement huîtres et palourdes. On va avoir également une activité qui est une activité d'algoculture sur le secteur de Saint-Suliac, pêche à pied professionnelle sur deux ressources que sont les palourdes et les coques. Si on reste cantonné sur la partie maritime, en termes d'activité primaire, c'est à peu près tout. Et après, ce sont essentiellement des activités liées aux loisirs qui se sont implantées. Donc c'est tout ce qui va graviter autour de la plaisance, hein, donc essentiellement des chantiers navals, éventuellement des centres nautiques qui emploient des animateurs et des brevets d'État moniteurs de voile. Donc c'est plus une activité de nature et de loisirs qui va être aujourd'hui présente sur le secteur de la Rance.
Et l'activité de la Maison de la Rance, qui est justement de valoriser, de promouvoir. Voilà.
Et d'emmener les gens sur les sites, sur les différents coins, sur les spots, des coins spots, on va dire, qui sont intéressants à voir.
Eh bien, Jean-François Châtelet, François Lang, merci pour cet entretien donc à la Maison de la Rance, à Lanvalet.